salud.
Bonsoir. Je remercie Véronique, mais je remercie le père Lionel de m'avoir invité. Et puis c'est l'occasion pour moi de, à chaque enseignement, de pouvoir rendre grâce à Dieu pour tout ce chemin parcouru depuis des années. Je suis prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles. Mais s'il y a des Belges parmi nous, vous verrez que je n'ai pas tellement l'accent là-bas. De toute façon, pour les Français, je suis belge, et pour les Belges, je suis français, donc c'est foutu. Et j'ai été ordonné en 1984 au diocèse de Malines-Bruxelles. J'étais pendant 30 ans membre de la communauté d'Emmanuel. En 2000, j'ai été recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial jusqu'en 2009, une année à sabbatique après à Annecy. Et puis, suite à une mission que, non pas que j'ai initiée, mais qu'une dame a initiée, qui s'appelle Alicia Beauvisage. Elle a un bon nom français, mais elle est d'origine salvadorienne et elle habite en France. Elle a organisé, je l'ai confié, l'organisation des voyages des reliques de Sainte Marguerite Marie, tout d'abord au Salvador, mais c'est devenu une grande mission dans le monde entier. Ce qui fait que de 2005, exactement de 2006 à 2010, nous avons voyagé dans toute l'Amérique latine et en Europe avec les reliques de Sainte Marguerite Marie. Et puis depuis 2010 jusqu'à 2019, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, et jusqu'à ce que Dieu le veuille, eh bien nous continuons de témoigner de l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Et le thème, c'est que plus que jamais, le monde d'aujourd'hui a besoin du Sacré-Cœur. Mais ce n'est pas le thème de cette rencontre d'aujourd'hui. Je vais rester dans la grâce de cette convocation pour vous. D'abord, ça m'a réjoui parce qu'on aurait pu tourner un petit film quand même, dehors, et voir, un peu comme à l'époque, c'était mon époque, un peu comme Thierry Lafonde, ça venait des quatre coins de l'horizon et ça venait vers la porte de Saint-Nicolas. Je tiens à dire que ça fait extrêmement plaisir de vous voir arriver vers cette église. Je me dis, mais il y a vraiment du monde qui va venir. Je m'attendais à un petit groupe d'une trentaine de personnes, mais excusez-moi d'exprimer mon émotion, mais je suis très touché de vous voir si nombreux répondre à cet appel du Seigneur. Je pense tout de suite, bien sûr, des formations professionnelles, comme ancien recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, je pense à cette phrase de Jésus, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui en retour a reçu tant d'ingratitude. » Et vous ne pouvez pas savoir, et moi non plus d'ailleurs, quel plaisir ça fait à Jésus de voir autant de monde venir l'adorer. Même si on est un petit reste, ce petit reste lui fait plaisir. Un immense plaisir. D'ailleurs, c'était aussi une découverte pour moi dans cette mission du Sacré-Cœur de Jésus. Je n'aurais jamais osé, avant 2006, commenter cette phrase de Jésus à Sainte Marguerite Marie. « Veux-tu me faire le plaisir de me rendre amour pour amour ?» Tellement dangereux le plaisir, en théologie, en spiritualité. Attention, mon père, vous êtes prêtre. Et puis finalement, de réaliser que c'est Jésus qui s'adresse à une religieuse, Sainte Marguerite Marie, et qui lui dit « Veux-tu me faire le plaisir de me rendre amour pour amour ?» Que vraiment on pouvait faire plaisir à Jésus. Et il ne faut pas grand-chose, vous savez, pour faire plaisir à Jésus. Il faut venir vers lui comme vous avez fait maintenant. Il faut lui dire aussi « Jésus, je t'aime. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'espère en toi. » Il faut qu'on cesse aussi d'accuser Jésus de tous les maux. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en Amérique latine. Parce que quand j'étais aumônier, donc j'étais aumônier de collège à Bruxelles, j'entendais combien de fois je n'ai pas entendu dans ma journée « Ah, si Dieu existait, ma grand-mère serait pas morte. » Comme si les grand-mères ne mourraient pas un jour. « Ah, si Dieu existait, ma grand-mère serait pas morte. » « Ah, si Dieu existait, mon père serait pas au chômage. » « Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas eu de tsunami. » Et on accuse Dieu de tous les maux. Et en Amérique latine, j'ai été absolument surpris, mais vraiment très, très agréablement surpris. « Ma grand-mère est morte, Jésus, s'il te plaît. » Accueille-la dans ton paradis. Mon père est au chômage, donne-lui la grâce de dépasser cette épreuve. Et puis que tous ensemble nous prions et qu'il retrouve vite un travail. Il y a le tsunami, que nous soyons prêts, Seigneur, le jour où tu nous prendras. Avoir ce dialogue avec Dieu. Et en Europe, on a chassé le bon Dieu. Et c'est pour ça que ça fait extrêmement plaisir à Jésus que vous soyez là pour venir l'adorer, l'aimer au Saint-Sacrement, le louer, le chanter, pleurer, souffrir, lui poser des questions, vous intéresser, lui demander son avis, être dans un dialogue simple avec Jésus, présent au Saint-Sacrement. Et en plus, quand je vous parle du Saint-Sacrement, je vous parle aussi directement du cœur de Jésus, car le cœur du Christ bat dans l'Eucharistie. C'est Jésus qui est réellement présent dans l'Eucharistie. Vous savez, des fois, j'ai l'impression d'être un perroquet, et dans les homélies, je répète bien souvent, ce n'est plus du vin, ce n'est plus du pain, c'est le corps et le sang du Christ. Et c'est pas rare qu'après avoir dit ça, on vient me dire, mais Père, vous exagérez, c'est un symbole, c'est un signe, c'est un rappel. Vous ne pouvez quand même pas croire que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Eh bien si, c'est la foi de l'Église, c'est pas la mienne, c'est la foi. Mais je la fais bien, c'est ma foi. Je crois que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, qu'il est vivant et que son cœur bat d'amour pour moi. Et chaque battement du cœur du Christ me dit, Édouard, je t'aime. Ben, c'est que pour moi, je suis désolé. Mais vous devez prendre cela pour chacun, chacune d'entre vous. Nous n'avons aucune idée à quel point Jésus nous aime personnellement. Je prends un nom au hasard. Bon, Lionel, tiens, je connais Lionel. Lionel, c'est tout à fait par hasard. Mais à Lionel, Jésus lui dit, Lionel, je t'aime. Il peut prendre cette parole uniquement pour lui, comme si vous n'existiez pas. Tout l'amour de Jésus est pour lui. Mais soyez pas jaloux, parce que Jésus m'aime de la même façon. Je ne suis pas jaloux, je suis heureux que Jésus aime Lionel d'un amour unique. À tel point que, par exemple, Jésus l'a dit à Sainte Marguerite Marie, tu aurais été toute seule, hein, sur la terre, il n'y aurait personne d'autre sur la terre, j'aurais institué le sacrement de l'Eucharistie rien que pour toi. Donc ce n'est pas moi qui invente, hein. Je ne suis pas en train de faire un effet oratoire. C'est Jésus qui a dit à Sainte Marguerite Marie, tu aurais été toute seule sur la terre, s'il n'y avait même pas d'autres hommes, j'aurais institué le sacrement de l'Eucharistie rien que pour toi. Pour réaliser quoi? Finalement, la phrase de Jésus à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et Jésus nous assure tout le temps de sa présence. Il est tout le temps avec nous. Même quand on n'y pense pas, lui, il pense à nous. Même quand on n'y pense pas, lui, il nous aime. Même quand on n'y pense pas, il a confiance en moi. Avant même que j'aie confiance en lui. C'est un amour unique. Je le répète, c'est tout l'amour de Jésus pour moi. Pascal disait qu'il y avait une goutte du sang du Christ qui m'a sauvé. Non, c'est tout le sang du Christ qui m'a sauvé et qui sauve chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes inondés de son amour. Et dans l'Eucharistie, donc son cœur, eh bien c'est un cœur qui nous connaît mais parfaitement bien. C'est un cœur qui a commencé de grandir dans le ventre de notre mère, de sa mère à lui, comme nous, notre cœur a grandi dans le cœur, dans le ventre de notre mère. Il a épousé notre humanité depuis le premier moment de la conception. débordement de notre conception. Il vient sauver ce qui est à sauver au moment même de notre conception dans le ventre de notre mère. Si vous êtes allé à la messe, ça doit vous rappeler quelque chose. La vocation de Jérémie ce matin, première lecture. Je t'ai connu et je t'ai consacré dès le ventre de ta maman. Mais il a grandi, il est devenu aussi un petit enfant. D'abord un bébé, un petit enfant, un adolescent. Et il n'a pas fait semblant d'être un homme. Il a épousé notre humanité au point d'accepter, d'apprendre à parler. Il a accepté qu'il devait grandir en sagesse et en sainteté. Il a accepté de devoir apprendre les prières, s'adresser à son Père dans les cieux, dans son humanité, malgré qu'il soit pleinement Dieu et qu'il avait connaissance de sa filiation avec son Père. Et puis il a souffert. Il y a une phrase que je pense beaucoup lorsque je pense au cœur du Christ et à Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, dans le prologue. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Et qu'on arrête de dire que le Sacré-Cœur de Jésus, c'est doloriste, que c'est sentimental, que c'est émotionnel. Malheureusement, tiens. Car c'est ainsi qu'il peut guérir le cœur du Christ, nos affections, nos émotions, nos sentiments, les régler selon son cœur. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. La souffrance du Christ, il épouse aussi toutes nos souffrances, excepté évidemment le péché. Mais il éprouve les conséquences de notre péché, de notre désobéissance. Et puis, venir chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli, nous savons jusqu'où ça l'a amené, librement. Et ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Il est le maître du temps et de l'histoire. J'imaginais ce matin, dans mon homélie, être un réalisateur de cinéma. Et je voyais cette foule dans la synagogue de Nazareth et de le repousser sur la colline. Et puis de vouloir le précipiter du haut de la colline, parce que se trouvait sur une colline. Et puis après, on voit Jésus qui passe. Parce que ce n'était pas encore son heure. C'est librement qu'il a choisi de mourir sur la croix. Pour moi, encore une fois, c'est toujours pour moi. Rien que pour moi. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour moi. S'il y en a qui sont un peu ignatiens, ceux qui ont déjà fait des exercices Saint-Ignace, c'est la prière qu'on fait. À chaque mystère que nous méditons, nous demandons la grâce de comprendre que ce qu'il a fait là, maintenant, dans ce mystère, il l'a fait pour moi. Il faut faire la télévision dans son cœur, comme me disait une petite fille de 7 ans, quand je lui expliquais comment prier avec la parole de Dieu. Un peu comme ce matin, là, maintenant, avec Jésus. C'est à Nazareth ou tu me trompes? C'est peut-être pas à Nazareth, je ne sais plus. Si, c'est à Nazareth. Alors, fais la même chose que tu as fait à Capharnaüm. Disaient les gens de Nazareth. Ils ont voulu le tuer, il faut l'imaginer ça. Et son heure n'était pas encore venue. Personne ne l'a touché. Et puis finalement, eh bien, il va souffrir l'agonie. Et il n'a pas fait semblant d'être un homme. Il a vraiment demandé à son Père, si tu peux écarter cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est leur amour pour nous. Le Père nous aide d'un amour unique, comme le Fils. Et tous les deux, dans la force de leur amour qui est l'Esprit Saint, ils ont décidé de nous sauver par l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. Jésus a donné sa vie pour moi. Et il est mort librement pour moi. Et il épouse même, notre humanité qui meurt. Tous, hein, que nous soyons baptisés ou pas baptisés. D'ailleurs, c'est un petit quelque chose au niveau pastoral, Père, ça m'a beaucoup aidé. Car si nous avons été confrontés, ça peut arriver, confrontés à la mort des nouveau-nés, on appelle la mort subite du nouveau-né. Et j'ai eu le cas dans ma famille. Et donc, il n'a pas été baptisé. Alors, on parle. souvent du désir des parents de baptiser. À partir du moment où il y avait le désir, il est baptisé. Ouais, mais parfois on peut un peu douter de son désir de baptiser un enfant. On attend qu'il fasse beau, on attend qu'il y ait du champagne, on attend qu'il y ait la famille. Puis finalement on se dit, est-ce que c'était prioritaire qu'il soit baptisé ou pas? Mais un autre prêtre m'a expliqué, tu sais Edouard, je pense qu'il y a une autre façon de voir la chose. Les sacrements, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin des sacrements, il a reçu des sacrements. Les sacrements, c'est pour nous. Ce sont des signes objectifs de la présence de Jésus et de ce que Jésus agit au milieu de nous. Mais quand un enfant comme ça meurt sans le baptême, et je ne suis pas en train de minimiser le baptême, je dis simplement, l'enfant mort, eh bien, il est en communion avec Jésus mort sur la croix. La mort du Christ sauve tous les morts. Car le troisième jour, le Christ est ressuscité, et c'est la promesse pour l'humanité, de bonne volonté, qu'il ne fera pas le péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire le péché de Satan. En toute clarté, si on ne refuse pas Dieu et si on accueille le salut, on est sauvé par la foi, l'espérance et l'amour. Et donc, par ce petit exemple que je prends, je veux dire, voilà, Jésus a épousé toutes les dimensions de notre humanité, depuis la conception jusqu'au dernier souffle. Et quand j'arriverai au dernier souffle, je demanderai la grâce de me souvenir de la phrase de cette première lecture de ce matin, où Dieu dit à Jérémie, « Je serai toujours avec toi pour te délivrer. Je mourrai, mais je sais que je ressusciterai. » Nous sommes faits pour la vie éternelle. Et quelle bonne nouvelle nous avons! Quel trésor extraordinaire nous avons! Le Christ, qui n'est pas un chemin parmi les autres pour arriver à Dieu. Évangile de Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Notez-le bien, parce que si je meurs tout de suite, c'est cet évangile-là que je veux qu'on lise pour mes funérailles. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et puis il dit, je vais vous préparer une place. Et je suis tellement content que Jésus prépare une place pour moi dans la maison du Père. Mais à la fin de cet évangile, il dit une parole extraordinaire. D'ailleurs, si moi je la disais, dans le monde, on pourrait m'enfermer dans un asile psychiatrique, parce que ce n'est pas la vérité. Mais pour Jésus, c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est pas je suis un chemin, je ne suis pas une vérité, je ne suis pas une vie, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est un trésor extraordinaire. Excusez-moi, mais si vous avez déjà été malade, quelque chose quand même assez difficile, si on vous dit, là j'ai un médicament qui va te donner tout de suite la guérison, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous le prenez, tiens. Et là, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Qui croit en lui aura la vie éternelle. C'est quand même drôle qu'on se tourne encore vers les horoscopes, vers les voyants, vers je ne sais quoi encore, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va devenir. Mais moi, je sais ce qu'on va devenir. On va devenir semblable au Christ, car nous le verrons tel qu'il est. Et il est amour, et je deviendrai amour. Alors c'est un peu une longue introduction sur l'humanité du Christ, sur ce cœur profondément humain, mais qui m'aime divinement, absolument, comme personne ne peut m'aimer. Il n'y a que lui qui peut m'aimer ainsi. Alors maintenant, je ne dois pas vous convaincre de venir adorer. Mais on m'a demandé d'essayer d'approfondir ce qu'est-ce que c'est que l'adoration. L'adoration eucharistique. Il y a un passage dans dans l'évangile de Saint Jean. Et vous remarquerez, vous voyez que Jésus, pour expliquer ça, il n'est pas allé chercher quelqu'un du peuple juif, mais il a trouvé la Samaritaine. Une étrangère, une schismatique, une, à mon avis, de mauvaise vie, puisqu'elle avait, je ne sais pas quoi, de mari, mais j'ai oublié. Les rumeurs peuvent aller très très vite, je peux même exagérer. Et elle vient en plus sur le temps de midi, c'est bien normal, il fait très très chaud, elle est sûre qu'il n'y a personne au puits. Et donc, elle va aller puiser au puits. Mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la Samaritaine, mais je voudrais juste relever la fin du dialogue avec Jésus. Et Jésus, il est comme ça avec nous. Il parle de quelque chose de très très simple. Je vais donner un petit exemple. Je ne viens pas directement de Bruxelles, j'ai fait Bruxelles, Andergem, là, dans la communauté du Tchénakolo, ce matin, et puis je viens d'arriver maintenant. Et je rencontre un monsieur qui m'a dit, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose sur l'importance du temps. Et il me faisait une remarque et qui m'inspire beaucoup. Si je viens vous voir, je lui dis, est-ce que vous connaissez Jésus? Je risque d'avoir tout de suite un petit rejet, parce que je suis un petit peu direct. Est-ce que vous connaissez Jésus? Par contre, si je viens vous dire, est-ce que vous pourriez m'accorder un petit peu de temps? Voilà. Et là, on peut accorder un petit peu de temps à quelqu'un. Et là, on peut commencer à parler. C'est ce que Jésus a fait. Est-ce que tu veux bien me donner à boire? Oui, c'est très simple. Mais Jésus va l'emmener très, très loin. D'ailleurs, réfléchissez comment vous avez répondu un jour à venir pour adorer ici. Ce serait intéressant. Souvenez-vous de la première fois où vous avez répondu à cet appel. Faites-le. Souvenez-vous qui, comment, quoi, pour quelle raison vous avez accepté de venir adorer. Moi, je me souviens la toute première fois que j'ai adoré, mais on se souvient comme si c'était hier, je ne me suis même pas aperçu. On m'a invité, il y avait un groupe, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y avait? Alors qu'on était en train de parler, on ne priait pas, etc. On va tous à la chapelle, et qu'est-ce qui se passe? On met Saint-Sacrement sur l'autel, et tout le monde reste là en silence. Alors là, je peux vous dire que j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé devant, il y en avait qui dormaient, il y en avait qui lisaient la Bible, il y en avait qui étaient très pieux, il y en avait qui étaient à genoux, il y en avait qui étaient assis. J'ai regardé tout le monde, tous ceux qui étaient autour de moi. Voilà ma première leçon d'adoration du Saint-Sacrement. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, je me dis, je dois encore beaucoup de choses à apprendre pour adorer. Énormément. Vous savez pourquoi? Parce que c'est toujours nouveau. C'est toujours nouveau. C'est comme quand vous allez rencontrer un ami, vous ne savez pas toujours comment ça va se passer. Peut-être que vous savez que vous allez jouer aux cartes, peut-être que vous savez que vous allez partager une tasse de thé, mais après le reste, qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce qui va s'échanger? Dans quel sentiment on va être? On n'en sait rien du tout. C'est une grande surprise que de venir adorer. Souvenez-vous dans quelles conditions vous êtes venu, pourquoi vous êtes venu. Et peut-être repérez que plus tard, parce qu'on ne voit pas tout de suite, repérez le fil rouge, qu'est-ce qui nous a amené à adorer. En tout cas, je veux dire une chose, le premier qui nous attendait, c'était Jésus. Jésus nous attend, et parfois il nous attend depuis très longtemps. Avant de continuer, je n'oublie pas que je vous parlais de la Samaritaine. Mais je repense à une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 20 ans. Et je découvrais vraiment, redécouvrais la foi, je découvrais toute l'adoration, comme je viens de vous le dire. Hein. Et puis je le découvrais tellement bien que j'ai appris, comme étudiant à Paris, à adorer. Et puis j'étais très heureux à Paris. Et puis je participais à des week-ends. Et puis finalement, tellement content que je ne rentrais plus chez mes parents. On parle beaucoup de gens qui se radicalisent, je crois que j'étais un petit peu radicalisé, mais je ne rentrais plus chez papa. Pourquoi? Parce que j'avais jamais appris à prier à la maison. Et j'avais une frousse bête de me dire, si je reviens à la maison, je vais retrouver mes habitudes et je ne vais pas prier. Et je vais manquer à ma prière de chaque jour. Parce que je ne pouvais pas imaginer de prier sans adorer, sans avoir le Saint-Sacrement exposé. Fort de cela, je reçois un jour un coup de téléphone de mon frère, le deuxième frère. Il me dit, Édouard, tu sais, c'est bien, j'informe les parents, puisque je te vois quand même à Paris, je vois que tu es heureux, les parents sont très contents, que tu sois content, tu es heureux, tout va bien pour toi, mais ils seraient contents de te voir. Et moi de répondre du tac au tac à mon frère Jean-Paul, bah, tu diras à mes parents, moi je veux bien venir, mais à une seule condition, c'est qu'il y ait le Saint-Sacrement qui soit exposé à trois en Champagne. Et je pensais qu'il ne pouvait y avoir rien de bon qui puisse sortir de trois. Donc quand j'ai dit ça, ma décision était claire, je ne reviendrai pas à la maison, parce qu'il n'y a pas le Saint-Sacrement exposé à la maison. Quoi, pas à la maison, mais à trois. Bon, il raccroche. Hein. Trois jours plus tard, c'est-à-dire peu de temps après, il m'appelle. Il me dit, Édouard, maintenant tu n'as aucune excuse. Mais alors, aucune excuse. Et réfléchis bien, tu vas voir, tu vas être étonné. À moins de 75 mètres de la maison, depuis 100 ans avant ta naissance, le Saint-Sacrement est exposé 24 heures sur 24. Donc il suffit que tu ailles à la chapelle et que tu ailles adorer quand tu veux, de jour ou de nuit. Alors bienvenue à Troyes. J'ai cherché dans ma tête où pouvait être cette chapelle, je n'ai pas trouvé. J'avais beau chercher dans ma tête. Au fond du jardin, il y avait bien les sœurs de la cité à Via, les sœurs de Saint-François de Sartre, c'était quoi là. Un peu plus loin, mais ça c'était pas à 75 mètres, il y avait la visitation où j'étais à l'école. Et puis finalement, j'ai complètement oublié que dans l'axe de ma chambre, il y a une rosace de la chapelle à 75 mètres. Et c'est la chapelle des sœurs Clarisses de l'Adoration. Les Clarisses de l'Adoration, ce sont les mêmes sœurs que je savais de WWTN, de sœur Marie Angelica, qui fait des émissions aux États-Unis d'évangélisation. Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire. Mes parents n'ont jamais amené à cette chapelle. Ah, ils ont donné des œufs, ils ont donné de la nourriture aux sœurs. Ça serait bien que pour la Sainte-Claire, il fasse beau pour les communions, les professions de foi, etc. Ça, on les connaissait bien. Ils ont même donné des nappes, etc. C'est merveilleux. Mais jamais j'étais allé adorer là. Et c'est pour ça que je ne suis jamais surpris. Quand quelqu'un me dit « mais j'ai pas encore trouvé de lieu d'adoration », je dis « attendez, priez et Jésus va vous répondre. Vous voulez vraiment adorer ? Vous trouverez un lieu d'adoration. » C'était une parenthèse. Là, ça va être bon. À la fin de la conversation, la conversation va se croire moins femme, alors donc elle pose une question. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Alors Jésus lui dit, crois-moi femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est là que je voudrais développer. Le Père, le Père, cherche des adorateurs. Où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne vous apparaît peut-être pas tout de suite, hein, mais l'adoration est un acte trinitaire. C'est un acte trinitaire, c'est une prière trinitaire. Vous faites des prières ? Vous faites des prières trinitaires à tout instant à la messe. La collecte d'ouverture, la prière d'offertoire, la prière de post-communion, la préface, la prière eucharistique. Ce sont toutes des prières, la doxologie finale, la petite messe par lui, avec lui et en lui. Le credo, le gloria, ce ne sont que des prières trinitaires. Donc l'adoration, bien que j'en ai bien parlé dans ce sens-là, qui est une rencontre avec Jésus, mais je reprendrai bien une phrase de Jean-Paul II qui dit que la véritable conversion ne consiste pas à rencontrer Jésus, mais d'aller jusque à Dieu, qui est un Père riche en miséricorde. L'adoration est un acte trinitaire, comme notre vie chrétienne, c'est un acte trinitaire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous adresser à Dieu. Depuis que nous avons été baptisés, nous avons reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et dans ce pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est bien manifesté par une mission particulière, c'est que nous sommes devenus prêtres. Je cite deux autres, prophètes et rois. Prêtres, pour quoi faire? Pour prier. Prophètes, pour quoi faire? Pour annoncer l'Évangile. Et rois, pour quoi faire? En Belgique, ils savent mieux. La tête du roi, mais en France on a du mal, mais on a la nostalgie du roi. On a la nostalgie. Un bon président, c'est un président qui se comporte comme un roi. Un mauvais président, c'est quelqu'un qui veut être président normal. Vous voyez, je ne veux pas faire politique. Donc, le roi, c'est celui qui est serviteur des dieux et serviteur des autres. Mais je m'arrête sur le prêtre. Pouvoir de prier. Nous avons reçu ce pouvoir. Alors comment on le reçoit? Et là, parce qu'on ne fait plus qu'un avec Jésus. Quand on devient baptisé, Jean-Paul II employait cette expression alter Christus. C'est du latin qui veut dire un autre Christ. Nous devenons un autre Christ. Alors quand je dis à quelqu'un, vous êtes d'accord d'être un autre Christ? Non, je ne suis pas devenu un Christ. Si je vous dis vous êtes chrétien, oui, je suis chrétien, pourtant ça veut dire la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. Ça a la même conséquence, c'est la même exigence. Être chrétien ou être un autre Christ dans le monde, c'est la même exigence. Prêtre pour prier, prophète pour annoncer l'Évangile et roi pour servir. Donc, comme baptisé, je deviens un autre Christ. Je ne fais plus qu'un avec lui. Maintenant, quelle est la prière qui est agréé par Dieu notre Père? C'est-à-dire, on prend une expression plus simple, quelle est la prière qui est accueillie, exaucée par le Père? Eh bien, c'est celle du Christ, c'est son Fils. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'une relation, mais qui est profondément intime, où il y a une unité de volonté, c'est celle du Fils et du Père. Et le Fils sait très bien ce qui fait plaisir au Père. Et le Père sait très bien ce qui fait plaisir au Fils. Et si on veut toucher le cœur du Père, c'est pas pour rien que le Christ est l'unique médiateur. C'est l'unique médiateur. Mes prières, elles passent par le cœur du Christ. Elles sont offertes par le Christ. Mais comment? C'est très simple. Quelle est, l'énergie? C'est un mot qu'on emploie, mais voilà, bravo, au moins là, on vient d'employer. Ce ne sont pas des énergies inconnues qui nous animent, on ne sait pas d'où. C'est l'énergie, c'est leur amour. C'est l'amour du Fils pour le Père et l'amour du Père pour le Fils. Donc c'est une prière qui vient du Fils, qui est adressée au Père dans la puissance de l'Esprit-Saint, dans la puissance de leur amour. Et j'ai le pouvoir de prier depuis que je suis uni à Jésus et que j'offre ma prière par le Christ au Père, dans la puissance de l'Esprit Saint. Et on ne pense pas assez. Et pourtant, c'est magnifique. On est comme, dans la prière, on est comme saisi dans ce mouvement d'amour. Parce que vous voyez bien que c'est un peu limité quand même ce vocabulaire. Ça fait un peu étriqué. On a l'impression que finalement, ça ne passe que par Jésus, au Père. Mais alors, attendez, on va prendre un petit peu d'ampleur. Savez-vous que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas besoin de nous? Ils existent depuis toujours, ils n'ont jamais eu de commencement et ils n'auront jamais de fin. Ils viennent, on ne peut même pas dire qu'ils viennent de la nuit des temps, ils viennent de en dehors du temps et de l'espace, ils n'ont jamais eu de commencement. Ils n'ont pas besoin de moi pour être Dieu. Il est Dieu en lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. On ne sait pas par quelle folie, une folie divine, il a voulu que des créatures, c'est-à-dire des êtres qui dépendent du Créateur, ça on oublie aussi, nous dépendons. Si nous avons la vie, c'est parce qu'il y en a un seul qui est la vie, c'est Dieu. Si nous sommes capables d'aimer, c'est parce qu'il n'y en a qu'un seul qui aime depuis toujours et qui est amour. Et c'est un amour qui n'est pas du tout solitaire, c'est une communion d'amour. Comme on dit en théologie, je pourrais me tromper, mais c'est une incision, je parle accession, on s'en moque. C'est-à-dire que ça circule, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un tourbillon d'amour, mais très paisible, ne vous inquiétez pas, très paisible. C'est une communion d'amour. Et il a voulu, Dieu, que nous partagions cet amour. D'ailleurs, vous les couples, vous ne le savez pas, mais vous êtes à l'image de Dieu. Homme et femme, à son image et à sa ressemblance, il les créa. La meilleure image de Dieu, ce n'est même pas votre curé, ce n'est même pas moi. La plus belle image de Dieu, ce sont les couples, c'est l'homme et la femme. C'est ça, l'image de Dieu. C'est-à-dire que sur la terre, si on veut comprendre ce qu'est Dieu, on a une faible image, mais quand même très belle, qui est le couple. Parce que le couple est communion d'amour. Et qui donne du fruit, qui donne des enfants. Et donc c'est une mission extraordinaire. Certes naturelle, mais parce que Dieu l'a voulu ainsi. Nous lui ressemblons, homme et femme, nous ressemblons. Après, parce qu'on a fêté ça le 2 février, si on a fêté les consacrés sont très importantes pour nous parce que les consacrés, elles sont en train de dire au couple que l'homme ne peut pas combler le cœur de la femme, que la femme ne peut pas combler le cœur de l'homme. Et d'ailleurs qu'au ciel, il n'y aura plus ni homme ni femme, ni juif ni païen, ni esclave ni homme libre. Nous serons tout en tous, comme tous en celui qui est, en Dieu. Tous saisis par cet amour, on vivra de cet amour qui existe depuis toute éternité. Mais il nous faut nous préparer ici et maintenant. Donc quand nous venons adorer, on vient comme plonger dans la vie trinitaire. On vient plonger dans la vie de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je m'agenouille devant Dieu. Révélez Dieu qui est Père. Et je vois le Père parce que je vois le Fils. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Je crois que c'est Philippe qui a dit à Jésus, « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » Enfin, Philippe, quand même, ça fait un petit moment que tu es en formation avec moi. T'as toujours pas compris? Qui me voit, voit le Père. Donc, quand je viens adorer Jésus, certes, je vais rencontrer le cœur du Christ. Mais qu'est-ce qu'il y a finalement dans le cœur de Jésus? Eh bien, il y a Dieu. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est un abîme de miséricorde, un abîme d'amour, un abîme de guérison, un abîme de joie dans lequel on peut plonger nos maladies, nos tristesses, nos divisions, nos péchés. Il nous purifie. déjà devant Jésus, Eucharistie, nous nous laissons purifier. Voilà, je vais employer un mot qui n'est pas à la mode, on n'aime pas trop, mais j'ai l'impression que vous êtes bien formé, je pense que vous avez un bon curé, et que vous n'y êtes pas l'existence du paradis, ni du purgatoire, mais déjà dans l'adoration, nous vivons une purification passive et active. On se laisse entièrement aimer au rayon d'amour qui sortent de l'Eucharistie et en même temps purifié par les actes de foi, d'espérance et d'amour. Et je voudrais rappeler une petite phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, profitons-en, car il n'y a que sur la terre qu'on pourra avoir la foi et l'espérance. Au ciel, il n'y aura que l'amour. Il faut profiter de ce moment où nous sommes sur la terre pour croire en Dieu, pour croire en Jésus, le Verbe éternel du Père fait chair, pour croire que l'Esprit Saint m'est donné à tout instant dès que je le demande, et pour espérer le ciel. Dernièrement, j'ai entendu un évêque qui a souhaité les vœux ainsi, bonne année, bonne santé, et le paradis à la fin de nos jours. Quand j'ai dit ça dans la paroisse, ça a posé des grosses questions philosophiques. Pourquoi la fin des jours, ça commence dès maintenant? Vous avez raison, on va changer. Je ne suis pas obligé de suivre l'évêque, pour le coup, ce n'est pas le mien. Bonne année, bonne santé, le paradis pour l'éternité. Comme ça, on est tranquille, ça commence dès maintenant. Le paradis, c'est-à-dire l'amour, ça commence ici et maintenant. L'amour que Dieu nous donne à chaque instant. Alors, quand je viens adorer, eh bien, je suis face à Jésus, le Verbe éternel du Père, fait chair, qui a souffert la passion, qui est mort et qui est ressuscité. Ça nous permet ainsi de continuer ce mystère de l'Eucharistie. Quand on vient à la messe chaque dimanche, on ne vient pas partager un petit bout de pain. Ce n'est pas un repas fraternel. C'est beaucoup plus que ça. Nous sommes rendus présents au pied de la croix, à la passion, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous vivifie. C'est pour cela que quand on sort de la messe, je ne crois pas qu'on soit seulement heureux d'avoir accompli notre devoir. Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe en nous. C'est un petit peu la répétition générale de notre propre vie, chaque dimanche. Chaque dimanche, j'apprends à naître, mais quand on dit naître, c'est naître, vivre, souffrir, mourir et ressusciter. Chaque dimanche, je fais cette répétition générale pour que je ne sois pas surpris le jour où ça va m'arriver. Mais bien sûr, j'ai vu. Effectivement, je me suis entraîné toute ma vie et je sais ce qui se passe maintenant. Oh, ça, c'est formidable. Si j'avais pu croire encore que c'était aussi beau que ça, quand même, je serais allé à la messe encore avec beaucoup plus joyeusement. C'est quand même merveilleux de se rendre compte ce pourquoi nous allons à la messe, pour vivre la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut que nous aussi, nous ayons notre propre mort, notre propre résurrection, mais avec lui, pas sans lui, avec lui. Et donc, dans l'adoration, eh bien nous sommes saisis par le Christ qui nous révèle l'amour du Père. Et alors, dans le Christ, quand on est en lui, eh bien il y a l'Esprit Saint qui agit. Viens l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qui nous fait dire l'Esprit Saint? À part que Jésus-Christ est Seigneur, bien évidemment. Comme dit Paul, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sans l'Esprit Saint. Mais il nous fait dire cette parole si belle, Abba, Père, Abba, Père. Et on pourrait rester dans l'adoration à dire ce petit mot, Abba, Père, murmurer ce mot, notre Père. Et il n'est pas interdit, parce que c'est pas toujours, voilà, ça c'est une grâce, hein. Laissons-nous guider. dernièrement avec les catéchistes dans la paroisse pour débuter la réunion. Finalement, on a fait un petit exercice de prière. Je leur dis, je ne sais pas si vous avez déjà vu le pape Jean-Paul II prier. Bon, maintenant, on pourrait dire, est-ce que vous avez déjà vu le pape François prier? Et bon, moi, je vois le pape Jean-Paul II prier. Quand je le voyais prier, ça me donnait envie de prier. J'avais envie de prier comme lui. Et j'avais envie de lui dire, mais, Saint-Père, tu ne voudrais pas m'apprendre à prier? Et puis, on peut transposer ça. Finalement, on est en esprit avec Jésus sur la montagne et on le voit prier. Il prie son Père. Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'apprendre à prier? Puis prenez le temps. Et si vous avez envie de le faire maintenant, on va le faire déjà maintenant. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Si vous voulez, c'est pas obligé. Moi, je vais les fermer parce que ça va m'aider. Ainsi, je fais la télévision dans mon cœur. Et sur cette montagne, eh bien, je vois Jésus qui prie. Puis il est vraiment pris dans cette prière. Il prie son Père. Et on sent bien qu'il y a un immense amour entre le Fils et le Père. Un immense amour entre le Père et le Fils. D'ailleurs, un jour, ça a été manifesté, le jour du baptême, le jour de la transfiguration. Une voix est venue du ciel. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. On a envie de... Ah, on voudrait bien entendre cette voix. Pour nous, Jésus, apprends-moi s'il te plaît à prier. Oh, bien sûr que je suis surpris. Il se tourne vers moi, puis il me regarde. Ah, son regard qui vient jusqu'au plus profond de mon âme. Un regard d'amour. Puis il me dit, Edouard, quand tu veux prier, avec tes frères, tu dis notre Père. Notre Père. Abba, Père. Et dans ce mot Père, il y a un immense amour qui est l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui m'unit à Jésus, même qui forme en moi le Christ. Comme l'Esprit Saint a formé charnellement le Christ dans le sein de la Vierge Marie. En moi, il le fait spirituellement. Il forme Jésus en moi. Et moi, avec Jésus, ensemble, nous lui disons, notre Père, je suis le frère du Christ. Je suis la sœur du Christ. Il est mon sauveur. Et mon Dieu qui était si loin, d'un seul coup il est tout proche. Quelle bonne nouvelle! Seigneur Jésus, quel cadeau tu me fais! Dieu n'est pas loin, il est un Père qui me serre dans ses bras, qui m'embrasse, qui me guérit, qui me console. Je n'ai pas regardé ma montre. Je ne sais pas si c'est là. C'est fantastique. Je crois qu'on va s'arrêter là.
Grand merci, Père Édouard, pour cette méditation que vous nous avez donnée. Parce que je veux une idée que je retiendrai, celle que je retiendrai pour moi, c'est que quand on adore, on plonge dans la Trinité, dans l'amour de la Trinité. Et puis, que Jésus, il m'aime moi. C'est bien. Mais ça marche pour tout le monde, c'est bien. Voilà. Alors, en fait, vous avez aussi un ministère qui est un peu. Alors, je ne sais pas très bien comment l'expliquer. Peut-être que vous pouvez.
En un mot, donc, j'étais en 2010. Fort de cette mission qui a duré depuis 2006 jusqu'à 2010, avec ma Alicia au visage, il s'est avéré que finalement, j'ai quitté la communauté d'Emmanuel pour être entièrement disponible à l'évêque de mon ordination, c'est-à-dire de Malines-Bruxelles. Monseigneur, à l'époque, c'était Monseigneur André-Joseph Léonard. Et Monseigneur André-Joseph Léonard m'a dit, Édouard, que je Il me connaît depuis très longtemps, il m'a connu comme séminariste, comme diacre, il me connaît très très bien, il m'a dit « Édouard, il faut que tu continues de diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus ». Et donc il nous a donné une mission officielle avec Madame Alicia Beauvisage et confirmée dernièrement encore par Monseigneur Joseph de Kaiser, qui est l'actuel archevêque et cardinal de Bruxelles, et qui encore m'a recommandé auprès d'un évêque d'Espagne en disant que voilà, Madame Alicia Beauvisage et le Père Édouard Barraud sont tout à fait aptes pour cette mission de diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Et donc on va avec Madame Alicia Beauvisage partout où il y a des personnes qui désirent eh bien, être renouvelées dans cet amour du cœur de Jésus. C'est très simple, j'ai entendu pendant 30 ans que c'était vieillot, ringard à dépasser, et j'ai cru que c'était vrai. Voilà. Et grâce à cette mission avec Madame Alicia Beauvisage dans l'Amérique latine, je me suis dit finalement c'est l'Europe qui a beaucoup perdu et que les latino-américains eh bien, sont restés fidèles à cet amour du cœur de Jésus. D'une façon très simple, je l'ai déjà dit tout à l'heure, à travers si ma grand-mère était morte, vous voyez le truc un petit peu, et donc ils ont gardé une certaine fraîcheur par rapport à l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Mais si on ne fait rien là-bas, ils vont devenir comme en Europe. Donc on doit continuer de vraiment faire plaisir au cœur de Jésus et retrouver la spiritualité que j'ai au quotidien. J'ai participé à des colloques, on dit toujours oui, le cœur de Jésus, c'est catholique, c'est l'enseignement de l'Église, c'est magnifique, mais on dit toujours il faut actualiser les images et il faut actualiser le vocabulaire. Moi, je fais comme les petits bébés, j'ai jamais imaginé qu'un bébé ça s'appellerait Jules, ben, j'en ai vu un il y a pas longtemps. Depuis que le petit bébé porte ce nom de Jules, et ben, je trouve ce prénom merveilleux. Et bien voilà, tout ce qu'on trouve ringard, dépassé, ben d'un seul coup, dès qu'on le remet à l'honneur, ici et maintenant, et bien c'est actuel. Donc c'est ma mission avec Madame Alicia Beauvisage. Donc une semaine par mois, oui, j'ai pas précisé, une semaine par mois, je peux sortir de ma paroisse et je peux aller annoncer la bonne nouvelle du Sacré-Cœur de Jésus.
Bon, ben c'est une bonne introduction à ce que je vais vous proposer. Donc on va. On va prier pour se préparer à consacrer notre paroisse, nos familles, au Sacré-Cœur de Jésus. Donc c'est voilà, on va entrer dans une prière. Moi, je souhaite consacrer mon ministère au Sacré-Cœur de Jésus, consacrer la paroisse, consacrer alors si vous le souhaitez, s'il y en a qui le souhaitent, consacrer leur famille, se consacrer chacun au Sacré-Cœur de Jésus. Et en fait, quand on a invité le Père Édouard, moi, c'était, au début, c'était pour l'adoration. Puis après, j'ai regardé ce qu'il faisait. Je me suis dit, mais bon, ce serait bien pour moi aussi, ça. Et voilà. Donc, vous êtes venus une première fois, mais je crois que notre prière, si on prie, eh bien, il reviendra. Dans quelques mois, on verra, prendre date. Comment ? Avec quelqu'un d'autre. Voilà, avec Alicia Beauvisage. et on organisera une consécration de notre paroisse, de nos familles, au Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Un très grand merci pour votre visite, et vraiment, on espère que vous allez revenir bientôt.
Merci à vous tous de venus si nombreux à notre appel. Ça nous réjouit le cœur, et sûrement le cœur de Jésus aussi, parce que chacun de nous a entendu dans son cœur.